L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux, et sur les deux montants, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous arrêtons là d'abord pour étudier cette prescription. Dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, cette ordonnance de l'Éternel anticipe donc sur la loi et qui, elle, sera donnée plus tard dans le désert du Sinaï. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci, c'était le mois d'Abib, qui veut dire mois des épis. Dieu institue ici une année religieuse dont le mois d'Abib sera le commencement. Et c'était le septième mois de l'année civile. D'après une tradition plus ancienne, on était au septième mois. Et le Seigneur dit, eh bien, ce ne sera plus le septième mois, ce sera le premier. Et ceci, bien sûr, nous montre l'importance que Dieu entend dès le début attacher à la Pâque, et bien entendu, à l'événement que cette Pâque rappelle. Au verset 3, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Le dixième jour, alors qu'on va faire la Pâque le 14e jour, mais pendant ces 4 jours, l'agneau sera en quelque sorte mis de côté, préparé, mis à l'épreuve. Un agneau pour chaque famille. Le groupe de personnes qui devaient manger la Pâque ne pouvait pas être composé par des personne arbitrairement choisie. Il y avait là, n'est-ce pas, une intention formelle de Dieu, mais ce groupe qui allait manger l'agneau, un agneau, devait composer une famille, ou si la famille était trop restreinte pour manger à elle seule un agneau, eh bien, on faisait appel aux plus proches voisins. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes vous compterez pour cet agneau. Il s'agissait, n'est-ce pas, de voir ce que peut manger une personne, combien on peut mettre deux personnes pour manger l'agneau, puisque l'agneau doit être mangé entièrement, et on doit faire en sorte qu'il y ait peu de restes. Les restes, il faudra les brûler au feu. Mais on comptera donc le nombre de personnes. On pouvait, je pense, et d'après certaines indications, ce nombre pouvait être de 12 à 14 personnes. 12 à 14 personnes pour un agneau. Il importait que, donc, l'on soit en famille, ou bien alors que l'on se connaisse, et comme proche voisin, et que l'on ait ensemble une même aspiration à la délivrance de l'Éternel. Entre voisins, on se connaît, on se parle, on échangeait souvent ses pensées, donc on pouvait avoir ensemble une même aspiration. C'est ce que l'Éternel voulait, qu'il y ait un groupe familial qui ait la même aspiration. Dans une famille, n'est-ce pas, on ne va pas sauver un membre d'une famille et laisser les autres. Toute la famille aspire au salut quand ce salut est indispensable. Et puis, notons une chose, c'est que le peuple d'Israël n'est pas encore, à ce moment-là, constitué en nation. Et par conséquent, il ne peut pas être purifié en tant que nation, dans une capitale où se trouve un temple et où se trouve un lieu et un sol choisi par l'Éternel. Plus tard, on fera la Pâque, on célébrera la Pâque à Jérusalem. Et ce ne sera pas d'ailleurs le chef de famille qui immolera l'agneau, mais bien les sacrificateurs. Mais là, n'est-ce pas, le peuple n'étant pas constitué en nation, c'est dans chaque famille qu'il y aura immolation de l'agneau, et c'est le chef de famille qui sera en somme le sacrificateur. Un agneau sans défaut, un agneau ou un chevreau. Et le verset 5 précise aussi un mâle âgé d'un an. Un mâle âgé d'un an. Un mâle, parce que le mâle est considéré comme étant la source de la vie. Et sans défaut, il faut que, bien sûr, cet agneau ne soit pas choisi parce que c'est le moins beau du troupeau et parce que on ne pense pas qu'il pourra être de quelque valeur par la suite. Au contraire, il faut prendre l'agneau sans défaut. Un agneau sans défaut, il y a là, n'est-ce pas, dès le commencement, une image qui se construit, une figure qui se construit. C'est l'ombre des choses à venir, comme dit l'Épître aux Hébreux, mais il faut que cette ombre, et qui est aussi le signe des choses à venir, soit préparée avec autant de soin que la chose qui va être signifiée, et ce qui va être signifié, c'est le sacrifice de l'agneau sans tache que Dieu, dont Dieu donnera, que Dieu donnera son propre fils. Pourquoi âgé d'un an? Eh bien, parce que cet âge est celui de la pleine vigueur de l'animal, qui est jeune encore. C'est une vie ardente qu'il faut sacrifier. Ce sont les prémices, c'est la part première et merveilleuse. La vie dans tout son équilibre, dans toute sa pousser, n'est-ce pas, la vie ardente, active, c'est cela que Dieu veut que l'on sacrifie. Toujours, n'est-ce pas, l'ombre des choses à venir, le signe de l'agneau que Dieu donnera. Et au verset 6, « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » On peut ici aussi traduire, certaines anciennes versions de la Bible avaient traduit « entre les deux vêpres », « entre les deux soirs ». C'est-à-dire le soir au coucher du soleil. Le Deutéronome, en effet, au chapitre 16 et au verset 6, nous le précise. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte, le soir au coucher du soleil. C'est donc ce qui est appelé là entre les deux vêpres ou entre les deux soirs. Le premier soir, et c'était les heures précédant le coucher du soleil. Il y a un certain moment, en général une heure et demie ou deux heures avant le coucher du soleil, où l'on sent que le jour va baisser. Il y a quelque chose, et évidemment, ceux qui vivaient dans la nature comme autrefois étaient beaucoup plus sensibles à cela que nous maintenant, avec nos lanternes électriques, n'est-ce pas, et nos tubes. Alors, on ne sait plus, on ne connaît plus la nature. Mais il arrive, n'est-ce pas, que vers 3h30, 4h, on sent, n'est-ce pas, que le jour a donné sa pleine clarté et que maintenant cette clarté est légèrement sur le déclin. Alors ça, ce déclin, c'est le premier soir. Jusqu'au moment où le soleil va disparaître, alors à partir de ce moment-là, c'est le deuxième soir. Quand le soleil disparaît derrière la montagne, mettons, à l'horizon, n'est-ce pas, à ce moment-là, il ne fait pas encore nuit. Alors il va y avoir un second soir, n'est-ce pas? Voilà les deux soirs. Alors entre les deux soirs, c'est donc bien au coucher du soleil. Au moment où le soleil va disparaître à l'horizon, c'est là que l'on va manger la Pâque. Toute l'assemblée, au verset 6 toujours, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ce qui veut dire chaque maison ou groupe constitué de deux maisons voisines, et cela pour toutes les maisons ensemble, ce sera tout le peuple d'Israël, toute l'assemblée, qui n'est pas encore une nation, toute cette assemblée d'Israël, comme un seul homme, au moment du coucher du soleil, immolera l'agneau. Au verset 7, on prendra de son sang, et on le mettra sur les deux poteaux, ou les deux montants. Le mot poteau, évidemment, pourrait laisser certaines personnes indécises. Les deux montants de la porte et le linteau de la porte des maisons. Et on le mangera. Alors, l'explication de cette prescription va venir un peu plus loin, au verset 13. Nous la laissons donc pour ce verset. Au verset 8, « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Cette nuit, c'est-à-dire cette nuit même, la nuit qui suivra cet entre-deux soirs, ce repas, n'est-ce pas, qui suivra par conséquent l'aspersion du sang sur l'agneau qui aura été du sang de l'agneau qui aura été fait sur le cadre de la porte. Alors, on mangera la chair de l'agneau rôti au feu. Le terme hébreu qui est là est le mot tsala, dont la racine est tala. Et cette racine veut dire, racine qui est un verbe, un substantif vient toujours, presque toujours d'un verbe, Ce verbe signifie suspendre ou mettre en croix. Ah, et oui, on n'a pas traduit, certainement, nos traducteurs n'ont pas trouvé le moyen de rendre cela. Ça veut dire mettre en croix. Alors vous voyez comme vraiment là il y a quelque chose qui est plus important que la mention que nous avons là en français dans nos traductions, rôti au feu, empalé et suspendu, mise en croix. Et là, l'expression mise en croix est une expression qui a été employée et employée avant même notre ère, c'est-à-dire avant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. On la mangera rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères, des pains sans levain. Le terme hébreu ici est matzot. Matzot qui veut dire, qui a été traduit par azim, pain azim. Le pain azim. Vous savez ce que c'est que du pain azim, on en vend maintenant sous forme de galettes plates, en général avec des perforations, n'est-ce pas? C'est un pain qui, c'est une pâte dans laquelle on n'a pas mis aucun levain, rien, et qu'on a cuite ainsi. La fermentation que produit le levain dans la pâte est vue dans la parole de Dieu, ici, surtout, comme un principe de corruption. Et c'est bien eu égard à cette pensée-là que l'apôtre Paul s'exprime dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain » afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voyez, n'est-ce pas? Nous voyons tout de suite là bien que cet agneau pascal préfigure, et c'est l'intention divine, préfigure celui qui va être la Pâque par excellence, qui va être l'agneau sans tache qui ôte le péché du monde. Vous êtes sans levain car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Vous voyez, n'est-ce pas, le sens du levain? Levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà quel était le sens, c'est l'Écriture elle-même, vous le voyez, n'est-ce pas, qui nous l'indique, le sens de pain sans levain. C'était ainsi que devait se présenter, à ce moment-là, le cœur des Israélites. Des herbes amères. Les herbes amères, c'était ou bien de la laitue sauvage, ou bien de la chicorée, par exemple, ou d'autres herbes peut-être. Et ces herbes venaient accompagner la chair rôtie de l'agneau, et elles étaient à côté de l'agneau immolé, et figuraient l'amertume de la vie du peuple d'Israël en Égypte, qui avait été une vie de souffrance et qui était encore là à ce moment, une vie de souffrance dont ils allaient être délivrés. Une vie de souffrance. Et c'est bien en effet ce que l'Écriture nous indique elle-même dans le commencement de l'Exode, au chapitre 1 et au verset 14, verset 13 et 14. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude, ils leur rendirent la vie amère, par de rudes travaux, amère, la vie amère. Et tous les jours, il fallait en quelque sorte manger, accepter cette amertume On dit quelquefois, n'est-ce pas, lorsque on souffre, qu'on mange un pain de douleur. Ils mangeaient une nourriture amère. Ils étaient dans l'amertume, et c'est de cela qu'ils vont être délivrés. Au verset 9 et au verset 10, nous voyons comment l'agneau devra être consommé. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. La viande des sacrifices sera, un peu plus tard, lorsque les sacrifices seront institués, cette viande sera mangée bouillie. Mangée bouillie. Vous ferez cuire, est-il écrit, vous ferez cuire la viande des sacrifices. Tandis que l'agneau, lui, devait être mis à la broche et devait rester entier. La viande des sacrifices, on la coupait en morceaux et on la faisait bouillir. Rappelez-vous, Élie, par exemple, Élie et Lili, et ses fils, le sacrificateur Élie, n'est-ce pas, et ses fils, ils faisaient dans des grandes marmites bouillir la viande en morceaux. Mais là, il s'agit de laisser l'agneau tout entier, avec la tête, les jambes et même l'intérieur. Le laisser entier. De le mettre à la broche, c'est-à-dire le mettre en croix. Et pourquoi appelait-on ça, pouvait-on appeler ça le mettre en croix? Eh bien, tout simplement, c'est parce que la broche avait cette forme. Voilà. Et on empalait l'agneau ici, n'est-ce pas? On empalait l'agneau ici. Et il y avait là, n'est-ce pas, un fer qui était à angle droit. C'est ainsi que l'on préparait l'agneau pour le faire cuire. C'est ceux qui savent, qui ont vu en Afrique du Nord les Arabes faire le méchoui, ou qui ont même participé au méchoui, je suis de ceux-là, eh bien, ont vu, n'est-ce pas, peut-être plus d'une fois, comment on préparait un agneau. Un agneau pour en faire un méchoui, c'est-à-dire, en somme, reproduire ce qu'indique ici la Bible. D'ailleurs, sachons bien ceci, c'est que les Arabes sont très heureux, je dirais même très friands, de tout ce qu'on peut leur dire sur Moïse, Abraham, Moïse, mais ils aiment aussi entendre parler de Moïse, entendre parler de la Pâque. Ils acceptent tout cela. Il ne faut pas aller trop loin, évidemment, mais là, n'est-ce pas, vous avez audience auprès d'eux. Ils aiment beaucoup. Moi, j'ai parlé abondamment de Moïse à des Arabes. Je leur ai parlé, je me suis servi de leur méchoui, précisément, pour leur parler de la Pâque. L'agneau doit être entier. Rien ne devait en être laissé. Ou alors, les restes étaient à brûler au feu. Ce qui signifie qu'aucune profanation n'était admissible. Il s'agit là pourtant de signes, voyez-vous, de figures, j'insiste, l'ombre des choses à venir. Hein? C'était figuratif, cela. Eh bien, cependant, dans ce qui est figuratif, mais qui est un signe, parce que ce qui est figuratif dans l'Écriture est prometteur et prophétique en même temps. N'est-ce pas? L'ombre des choses à venir. C'est pas seulement pour dire, tiens, plus tard il y aura, voyez-vous, quelque chose qui dans la réalité sera cela. La réalité, on ne l'a pas encore, alors on la figure par le moyen de sacrifices. Ce n'est pas seulement cela, mais c'est pour promettre. C'est une promesse, c'est une prophétie des réalités à venir. Il faut bien comprendre cela. Et alors, l'agneau devait être mangé tout entier. Ce qui nous dit aujourd'hui, d'une façon très claire, ceci, c'est que quand on vient à Christ, il faut prendre Christ tout entier. Il y a des personnes qui voudraient bien prendre de l'Évangile ou de Christ quelque chose, mais pas tout. Il y en a qui ont modifié à leur gré, par exemple, la personne de Christ, ou ce que nous savons de la personne et de l'œuvre de Christ. Ils ont modifié cela, interprété ça à leur gré, supprimant même peut-être certaines choses. Ils ne prennent pas tout de Christ. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre de la parole de Dieu, tout prendre de l'Évangile, tout et n'en rien laisser. Ça, c'est une indication absolument formelle. Au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous aurez vos reins sains. Généralement, quand on lit un dictionnaire, si on peut vous prenez un dictionnaire biblique ou un livre quelconque et que vous ayez dedans un petit commentaire de cela, les reins sains, et vous savez que cela est repris dans la parole de Christ, n'est-ce pas ? Ayez vos lampes allumées, vos reins sains, C-E-I-N-T-S, c'est-à-dire entourés. Alors, les commentateurs, en général, vous disent, il s'agit de relever la robe, qui était longue et qui allait jusqu'à terre, de la relever en la tenant par une ceinture pour la marche. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, figurez-vous. Je regrette qu'on ait répandu ça, ça n'est pas de bonne source. En réalité, la robe, c'est pas ce qui importait. Ce qui importait, c'était que l'on ait les reins et les hanches bien serrés dans une ceinture que l'on se mettait et qui s'enroulait autour, parce que pour faire une longue marche, pour soutenir un assez long effort, il était bon, et il est toujours bon maintenant, n'est-ce pas, d'avoir les reins tenus, entourés. Ben, aujourd'hui, évidemment, les hommes ne font plus de travaux durs, alors on ne voit plus cela. Mais autrefois, on voyait les travailleurs, n'est-ce pas, se serrer la taille avec une ceinture bien serrée. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire, les muscles ont besoin d'un appui, n'est-ce pas ? Et c'était ça les reins sains, et c'est ça qui nous parle, c'est-à-dire, n'est-ce pas, saignez-vous de votre force, de la force dont vous allez avoir besoin pour entreprendre la marche qui vous est proposée. Mais là, la robe, sa longueur par terre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, ce qui me satisfait, c'est que les reins sont là, entourés. N'est-ce pas, bien tenu, parce qu'il va falloir faire une longue marche, un long effort, et ça figure quelque chose. La robe, relevée, ça figure pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'images dans une robe relevée. Et puis, les souliers. Quand on était dans la maison, on déchaussait ses sandales. Les souliers, c'était tout simplement des sandales, n'est-ce pas ? Si bien que il fallait, quand on arrivait à sa destination, il fallait qu'on ait les pieds lavés pour le repas, par exemple, parce que, évidemment, on se salissait les pieds de la poussière du chemin. Eh bien, les souliers, on ne les gardait pas, on était nu-pieds. Il y avait des tapis, c'est pour ça, d'ailleurs, que chez les Arabes, l'usage des tapis, c'est très développé, hein, parce que ils sont nu-pieds, comme dans leur mosquée, ils sont du pied. Eh bien, là, pour la Pâque, il fallait avoir les sandales aux pieds, enfin, prêts à partir. Il ne fallait pas que, au dernier moment, on ait ce souci de chercher les sandales, de les mettre, n'est-ce pas ? Le Seigneur voulait que tout soit prêt pour le départ. Un départ qui ne va peut-être pas être exactement annoncé pour une heure déterminée. Et il va falloir être prêt à partir n'importe quelle heure, quand le signal retentira. Et puis le bâton à la main, afin qu'on n'ait pas à le chercher pour le prendre, et puis là aussi c'était ainsi. On avait le bâton. Alors c'est comme ça, manger la Pâque, debout, les souliers aux pieds, les reins bien entourés, n'est-ce pas, les souliers, le bâton, prêt à partir, à franchir la porte et à partir. Et c'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons, tout cela fait figure, fait image. Mais il veut que nous ayons les reins sains, les lampes allumées, nos lampes allumées. Pourquoi ? Mais parce que nous allons partir dans la nuit. Ah, nous allons partir dans la nuit. Les vierges folles et sages se trouvent dans la nuit avec des lampes allumées. Il faut des lampes pour aller dans la nuit. Alors le Seigneur nous veut ainsi, comme ça. Il voudrait que nous soyons prêts à chaque instant. Il nous l'a dit d'ailleurs en clair, en dehors même des images. Le Seigneur nous l'a dit, n'est-ce pas ? Il faut que nous soyons prêts. Vous la mangerez à la hâte, cette Pâque. Le départ d'Égypte n'était pas une surprise pour les Israélites, puisqu'ils devaient s'y préparer et se tenir prêts en ce soir-là, en cette nuit-là. Mais il fallait qu'ils ne soient retenus par rien. Et il ne fallait pas qu'ils considèrent le repas pascal, l'agneau à manger avec les herbes amères et le pain sans levain, comme un de ces repas que l'on prenait avec toutes ses aises et que l'on prolongeait à loisir, n'est-ce pas ? Non, vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte, promptement. Ce n'était pas un repas de réjouissance auquel on pouvait s'attarder. Le signal du départ pouvait retentir d'un moment à l'autre. C'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. Et le mot Pâque vient, vous le savez sans doute, du mot hébreu Pessach, qu'on peut écrire en prononciation française P et accent aigu S-A-C-H. Pessach. Et qui vient du verbe, toujours d'un verbe, passa. Un verbe passage qui signifie passer par-dessus et qui signifie même épargner. Passer par-dessus, épargner. Nous pouvons lire d'ailleurs quelque chose de similaire dans Ésaïe 31, verset 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Vous voyez, c'était toujours la même image. Il épargnera, il sautera par-dessus, n'est-ce pas, et sauvera. Il épargnera et sauvera. C'est ça la Pâque. Il épargne. Il épargne et il sauve. Le repas, appelé la Pâque, puisqu'il y avait l'expression, et le Seigneur a employé aussi l'expression « manger la Pâque ». Eh bien, le repas, appelé Pâque, accompagne la délivrance accordée par l'Éternel, et ce repas, c'est, appelé Pâque, sera associé à la délivrance, au point que Pâque signifie « agneau pascal », l'agneau que l'on va manger lors de la fête de Pâques, mais signifie aussi « anniversaire » de la délivrance accordée au peuple d'Israël, mais signifie aussi la délivrance, tout simplement, de l'Éternel, le salut de l'Éternel. Tout comme le baptême, n'est-ce pas, signifie bien l'immersion dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'immersion, c'est bien ça, baptiser, vient de baptizo, qui veut dire immerger, plonger entièrement. Le baptême signifie cela, mais l'apôtre Paul, dans Romains 6, emploie le mot baptême pour parler, en somme, de quoi vous avez été baptisés en Jésus-Christ, pour parler de l'immersion dans la mort de Jésus-Christ afin de recueillir la vie de résurrection du Seigneur. Si bien que baptême est un signe, le baptême est un signe, on dit, certains disent un sacrement, nous disons un signe, tout simplement. Et il est un signe, n'est-ce pas? Mais un signe voulu de Dieu. Et alors, le signe et la chose signifiée se rejoignent. Et l'apôtre Paul n'a pas peur d'employer l'expression « baptisé en Jésus-Christ », comme il emploie aussi dans le 1 Corinthiens 10, « baptisé en Moïse », s'agissant du peuple d'Israël. Ainsi, n'est-ce pas, est la Pâque. La Pâque est le signe, elle est le repas, elle est la délivrance anniversaire, mais elle est aussi tout simplement la délivrance de l'Éternel, le salut de l'Éternel. Au verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. » Les animaux, eux aussi, vont être touchés par ce jugement. Le mot « plaie » figure dans l'Exode aussi, mais il y a le mot « jugement », et je préfère celui-là, la dixième plaie, comme on dit, en réalité, est un jugement. C'est un jugement de l'Éternel. Eh bien, les animaux sont frappés également, parce que, dans la volonté de Dieu, et cela ne peut pas changer, ils sont assujettis à l'homme. Et ils suivent l'homme au travers des vicissitudes de son existence. Si bien que dans Romains 8, l'apôtre Paul nous dit, lorsque les fils de Dieu, n'est-ce pas, seront manifestés, lorsqu'ils seront révélés, les fils de Dieu, c'est-à-dire, en somme, n'est-ce pas, tous les élus, tous les hommes sauvés seront là manifestés dans la gloire, alors aussi la création tout entière qui jusque-là a soupiré, elle a supporté des douleurs, elle aussi, eh bien, la création, elle aussi, sera dégagée de ces douleurs. Elle suit l'homme. Pourquoi ? Parce qu'au début, Dieu a donné à Adam la domination sur toute la création de la terre. Domination. Et il avait prescrit à l'homme et à la femme de s'assujettir toutes choses, par certainement des voies et par une puissance que Dieu leur concédait, naturellement. Mais il y avait un assujettissement qui reste. Vous savez, quand quelque chose procède de la volonté de Dieu, ça ne peut pas se détruire. Ça reste. Même à travers le malheur, à travers toutes les vicissitudes qu'entraîne le péché. Et alors là, Dieu frappera tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Pourquoi des jugements contre les dieux de l'Égypte? Eh bien, c'est que, chers amis, il y avait certains animaux qui étaient des divinités ou des symboles de certaines divinités, comme par exemple les vaches dans l'Inde. Hein. Alors là, je ne sais pas en Égypte exactement quels étaient les animaux choisis, mais il y avait certains animaux qui étaient vénérés et qui étaient considérés comme des divinités. Alors, leurs premiers-nés furent frappés également. Nous pouvons consulter, pour avoir assurance à ce sujet, le livre des Nombres 33, verset 4. « Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. » Vous enterrez les premiers-nés, aussi bien des hommes que des animaux, et l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux, donc leurs dieux étaient des animaux, les premiers-nés des animaux. Ce qui montrait que ces dieux étaient bien impuissants à protéger l'Égypte contre le courroux de l'Éternel. Et c'est d'ailleurs pourquoi le verset 12 se termine par « Je suis l'Éternel ». lorsque Dieu intervient par ses jugements, n'est-ce pas, il s'affirme, « Je suis l'Éternel ». Il y a un temps pour la compassion, un temps pour la patience, mais il y a un temps aussi où Dieu va s'affirmer comme étant l'Éternel, et les jugements sur la terre, lorsqu'ils vont frapper, là encore, Dieu dira « Je suis l'Éternel ». La patience de Dieu, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu, mais cette patience ne peut pas toujours se prolonger. Au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Je passerai par-dessus vous, alors c'est ça la Pâque, n'est-ce pas, Pécha. Lorsque le sang sera là, sur les montants de la porte de la maison et sur le linteau, servant de signe, alors l'ange exterminateur passera par-dessus la maison et ne s'arrêtera pas. Si un Israélite avait omis de mettre d'asperger de sang les montants de sa maison et le linteau, ou s'il n'avait aspergé par exemple qu'un seul des montants, il y a des gens qui aiment bien simplifier la parole de Dieu, eh bien, l'ange exterminateur serait rentré dans la maison et le premier-né serait mort. C'était uniquement le sang servant de signe qui pouvait épargner la maison. Hein? Ça, il faut le savoir, voyez-vous, c'est simple, ça paraît simple, et ce sont les choses qui paraissent simples qu'on accepte souvent le moins. Il faut accepter ça avec la foi, et voir en cela une gravité, voir en cela une action de l'Éternel que l'Éternel ne pourra pas abandonner. Enfin, l'Éternel a décidé cela, et cela se fera à nous de nous soumettre et de nous conformer, avec, d'ailleurs, amour, car nous savons que même dans les rigueurs de Dieu, il y a l'amour. Dans les rigueurs de Dieu, l'amour est là. Ainsi, le sang de l'agneau pascal va épargner les habitants de la maison qui seront couverts par le sang. Et cela, évidemment, nous parle de la valeur expiatoire du sang. Valeur expiatoire. Au premier abord, peut-être, cela n'apparaît pas, l'expiation faite par le sang. Toutefois, lorsque nous lisons dans le Lévitique, au chapitre 14 et au verset 25, nous voyons qu'il y avait un certain sacrifice de culpabilité plus tard, dans la loi de Moïse. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Vous voyez, n'est-ce pas, que là, le sang intervient comme un signe de l'expiation. Le sang, là, a un rôle d'expiation. Ainsi, l'immolation de l'agneau pascal est un sacrifice qui protège. Nous voyons ici en Égypte, et c'est concret, et c'est net, n'est-ce pas, comme je vous le disais, quelqu'un aurait omis d'asperger le cadre de sa porte, le montant de sa porte et le linteau du sang de l'agneau, il était frappé. Donc, il est épargné à cause du sang dont la porte a été aspergée. Alors, l'agneau pascal est un sacrifice qui protège, qui sauve, et il a en commun avec le sacrifice d'expiation, l'emploi du sang. Dans la loi, n'est-ce pas, on voit apparaître le sacrifice d'expiation, comme je vous l'ai montré, n'est-ce pas, avec l'emploi du sang. Ainsi, l'agneau pascal, l'immolation de cet agneau pascal nous montre déjà l'expiation. Et puis, l'agneau pascal nous montre encore autre chose, c'est que la victime est passée par le feu, elle est rôtie au feu, passée par le feu. Et dans la loi qui viendra, l'Holocauste voudra que la victime immolée soit brûlée au feu, brûlée sur l'autel. Elle est brûlée sur l'autel. Ainsi, la Pâque nous montre le sang avec sa valeur d'expiation, nous montre aussi que la victime étant passée par le feu, il y a là un holocauste, et en plus, la Pâque était mangée, l'agneau était mangé, c'était le repas sacré, et cela, dans la loi, correspond au sacrifice d'action de grâce. Si bien qu'il y a l'expiation, l'holocauste, et l'action de grâce. Et nous ajoutons ceci, c'est que le repas pascal, manger l'agneau, c'est un signe de communion avec Dieu. De communion avec Dieu. Et alors, nous pouvons dire que nous avons dans la Pâque l'expiation, l'holocauste, l'action de grâce, et la communion, c'est-à-dire tout ce qui se retrouve dans la Sainte Cène, appelée quelquefois l'Eucharistie, tout ce qui se retrouve. Nous avons l'expiation, l'Holocauste, n'est-ce pas, l'action de grâce et la communion dans la Sainte Cène. Alors, Jésus-Christ, dont le sang est répandu en rémission des péchés, cela nous est dit, est une nourriture, il est le pain de vie, et il a dit, mangez ma chair, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Et c'est cela qu'il appelle croire, car dans le même chapitre 6 de Jean, Christ a dit d'abord, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle !» Bon, mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et comme il n'y a pas deux moyens d'avoir la vie éternelle, c'est que croire en Jésus-Christ équivaut à manger sa chair et boire son sang. Ainsi, Jésus-Christ, dont le sang est répandu en rémission des péchés, est une nourriture, il est le pain de vie, il est le principe de vie à assimiler. Et dans la Sainte Cène, grâce est rendue à Dieu pour le don de la Sainte Victime, manifestation suprême de son amour envers les hommes. Si bien que la Pâque est vue comme le sacrifice par excellence. Et c'est ce que nous trouvons en effet dans le Nouveau Testament. D'abord dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 36, ou verset 35 et 36, le lendemain, Jean-Baptiste, était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu !» Jean-Baptiste, qui est un Israélite, et qui a fait la Pâque, qui connaît la Pâque, « Voilà l'agneau de Dieu !» L'agneau pascal, c'est pas un autre agneau, n'est-ce pas? C'est celui-là, l'agneau pascal, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans 1 Corinthiens 5,7, nous l'avons lu tout à l'heure, mais enfin rien ne nous empêche de le relire. 5,7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, notre agneau pascal, notre Pâque. La Pâque, c'était l'agneau, c'était la délivrance, et c'était l'action de grâce apporté au Dieu Tout-Puissant. Donc, vous voyez que la Pâque, n'est-ce pas, reste dans la pensée du Nouveau Testament, la pensée qui nous est livrée, qui nous est enseignée, reste le sacrifice par excellence. L'apôtre Pierre aussi, l'apôtre Pierre, dans son chapitre 1, première épître, chapitre 1, et verset 19, oh, il faut lire le verset 18. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Un agneau sans défaut et sans tache n'est-il pas avant tout l'agneau pascal? N'oublions pas, comme je l'ai dit, que la Pâque intervient avant le don de la loi. L'agneau pascal, un agneau sans tache. Et alors, dans l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 6, là, cette scène qui se déroule dans le ciel et que voit Jean l'apôtre, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Là encore, Jésus est vu comme l'agneau pascal. Mais, dans Exode, ce livre de l'Exode que nous avons là, et au même chapitre 12 que nous sommes en train d'étudier, mais au verset 46, nous avons un détail aussi qui nous montre que l'agneau pascal, c'est vraiment la figure majeure, excellente, totale de Jésus-Christ, victime offerte par Dieu pour faire propitiation des péchés. Verset 46. On ne la mangera que dans la maison, la Pâque, on ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Vous ne briserez aucun os, vous savez que cela est rappelé, notamment par l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 36, lors de la mort du crucifiement du Seigneur Jésus, je lis par exemple verset 35, « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi, ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie, aucun de ses os ne sera brisé. » Aucun de ses os ne sera brisé. Et c'était là, voyez, une des consignes de la Pâque juive, la Pâque israélite. Vous voyez, n'est-ce pas, chers amis, comme cela est merveilleux, comme Dieu a tout mis en place. Il avait un peuple, il se formait un peuple, il ne pouvait pas encore embrasser toutes les nations. Le temps n'était pas venu. Il prend un peuple, et ce peuple, 430 années, il le forge dans la souffrance en Égypte. Puis il le délivre, et cette délivrance avec pour signification l'agneau pascal, l'agneau immolé dont la chair est rôtie au feu, qui est mangé tout entier, voilà le grand signe que Dieu leur donne déjà pour leur montrer que plus tard viendra le grand libérateur, lui, qui sera comme un agneau immolé, et qui sera en effet immolé, mais aucun de ses os ne sera brisé, et de cet agneau vous mangerez aussi la chair. Hein, chers amis, tout cela est magnifique. Il faut s'en rapporter à Dieu, à la parole de Dieu, par la foi. Enfin, pas raisonner ces choses. J'ai entendu souvent épiloguer d'une façon d'ailleurs attristante sur Jean 6, manger la chair et boire le sang. Vous mangerez l'agneau, vous le mangerez. dans sa totalité. Voilà ce qui était dit à l'Israélite. Et voilà ce que Jésus redit, lui qui est l'agneau immolé, notre Pâque. Chers amis, ces choses sont claires. Le salut ne vient pas d'une doctrine. Il faut une doctrine. Mais ce n'est pas la doctrine qui sauve. C'est de manger l'agneau, c'est d'assimiler l'agneau. Il faut assimiler l'agneau, ce qu'il est pour nous. C'est cela qui sauve, l'agneau qui délivre. Lui, vous le mangerez. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.